Qu'est-ce qui est doux?
De quoi?
Qu'est-ce qui est doux?
Le quoi?
Le beurre doux.
Le beurre doux.
On est la radio du festival. Ouais. Radio doux.
Radio doux, la radio du rendez-vous. Festival international pour la paix.
Festival international pour la paix.
Pop, pop, pop. On est toujours sur Radio Doux, 103.3 et en direct live dans la cour Victor Hugo. J'espère qu'on nous entend là-bas. Faites nos coucous. Ouais, un petit peu.
Un petit peu, on a plein de signes. Les gens nous écoutent.
William, tu nous présentes quelques petites pastilles sonores glanées hier.
Alors oui, hier c'était l'arrivée au festival pour tous les festivaliers, l'arrivée au camping sur, je sais pas, il devait faire 35-40 degrés, il faisait grand chaud. Nous, on a posé notre tente après avoir vu les bus arriver du camp national, on a vu les bus de jeunes arriver, on a vu les festivaliers arriver avec leurs gros sacs à dos, jusqu'au premier checkpoint. On voyait derrière les tentes se monter. Et puis nous, on était là devant, micro à la main, donc on en a un petit peu profité pour interroger les gens, savoir d'où ils venaient, comment ils avaient débarqué sur le festival, et puis comment ils se sentaient sur le moment. Alors voilà, ça fait une petite capsule sonore de 2 minutes à l'entrée du camping. Je vous propose d'écouter ça.
Bonjour, vous venez d'où?
Je viens d'Allemagne.
D'où ça en Allemagne?
D'Hanovre.
Tu viens pour les 4 jours du festival?
Je suis traductrice.
Tu t'appelles comment?
Nina.
Enchantée Nina.
Bonjour, je m'appelle Rémi, je viens de Tours et j'anime une formation à la désobéissance civile ici demain, vendredi.
T'es arrivé à quelle heure?
Là, je suis arrivé il y a une heure, quelque chose comme ça.
Tu peux me décrire un peu ce qui se passe?
Thibaut? Là, on est en train d'attendre pour entrer dans le festival et voilà quoi. Pour poser nos tentes dans le camping, tout simplement.
Il y a combien de personnes, tu penses, autour de nous, là?
Je sais pas, moi, il y a...
Là, en direct, ouais.
Allez, 150 personnes. J'ai du mal avec les chiffres.
C'est possible.
Je sais pas encore, on va discuter. Est-ce que tu vas faire cet après, on peut présenter la photo.
S'il y a du matériel que vous voulez laisser en consigne, c'est possible ici, de mettre sous la tente.
D'accord, ça marche comment?
Vous remplissez de chaque côté, vous en gardez une moitié, et l'autre moitié, je la mets sur votre matériel.
Ah, super. Mais pour l'instant, ça va, mais on peut venir vous
voilà,
voir plus tard?
Voilà, c'est possible, bien sûr. C'est ce qu'il faut ici.
Tu es là depuis quand?
Moi, je suis là depuis 11h30.
Pour accueillir les festivaliers?
Oui.
Ça se passe
avec
bien?
Avec plaisir, oui. C'est assez grisant.
Vous attendez combien de personnes?
Je sais pas combien, on est 2000 annoncés.
Et il y en a 2000 qui dorment ici?
Ah non, pas au camping. Après, mais peut-être la plupart sont là quand même, sont là, ouais.
Ok. Ouais. Tu peux me décrire un peu comment ça se passe là, à l'accueil du camping?
Alors ça se passe que pour l'instant, c'est surtout les camps qui arrivent, donc il y a des grands groupes qui arrivent. Les chefs de camp vont chercher le matériel. Et puis voilà, il y a ce temps de fouille qui est un petit peu long, mais c'est nécessaire pour la sécurité. Et après, ça va être l'installation en plein soleil. Là, il faut qu'ils aient beaucoup de courage.
Ouais. Merci.
Bonne installation.
Merci.
Eh bien, merci William pour cette petite vue.
Moi, je viens de.
On reviendra,
pas loin
je pense
de
que tu en as d'autres à nous proposer pour le reste de l'émission. Et il y a Thibaut qui nous a rejoint à la table. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Alors, dis-moi, qui es-tu? Que fais-tu?
Je suis Thibaut. Moi, je suis bénévole ici. J'ai participé à l'organisation du festival avant, puis après, pendant que j'étais permanent national, et maintenant, je suis bénévole.
Et alors, tu me disais hors micro que là, tu étais arrivé il n'y a pas longtemps?
Je suis arrivé mardi matin.
Ça quand même.
À faire quand même.
Ouais. Et donc toi, tu as une petite activité cet après-midi, tu vas proposer, organiser quelque chose?
Oui, c'est ça. Avec Jean-Marie et Sarah, on est en charge d'organiser la photo aérienne. On va envoyer un message, un gros message de paix. Voilà. Donc on va écrire ça en lettres géantes. Donc plus il y a de monde qui vient avec nous à la Malcombe, mieux c'est.
Donc c'est à la Malcombe, vous réunissez les gens pour former des lettres?
C'est ça.
Alors est-ce que vous avez un... Je sais pas comment dire, un patron, un tracé au sol, comment vous placez les gens?
C'est ça, donc on s'est occupé de tracer les lettres hier. Et puis maintenant, là, on va faire une mise en place avec 2 camps qui sont volontaires pour nous aider. Et on va juste avoir à gérer les flux de personnes. Donc on s'est amusé à calculer combien de personnes par mètre, etc. Et puis maintenant, il va juste falloir faire rentrer les gens dans les lettres.
Vous écrivez quoi exactement?
Peace, avec un point d'exclamation.
D'accord, donc ça fait quand même beaucoup de lettres.
ça fait 5 lettres plus un point d'exclamation.
Donc il vous faut un minimum de
1000 personnes.
1000 personnes.
Vous avez calculé combien de personnes il fallait par lettre ?
À peu près, normalement ça a été fait. C'est ma collègue allemande qui a fait ça.
Ah, c'est avec la rigueur allemande.
Voilà, et c'est ça. Et on a des lettres qui font à peu près 6 mètres de haut par 6 mètres au bas.
Et donc vous prenez la photo avec un drone ?
Un drone, un photographe qui doit arriver avec son drone, qui s'est occupé de gérer tout ce qui est autorisation préfectorale pour faire voler un appareil au-dessus de nous. Et donc c'est un photographe qui vient, qui a le droit de faire deux passages. Un premier passage pour régler la photo et un deuxième pour la photo. Donc c'est un peu un petit stress logistique parce qu'il faut que ce soit, faut que ça aille vite.
Ouais.
Parce qu'il peut pas, en gros il a un timing ultra short quoi.
Ouais, et puis en termes d'autorisation tout ça, et puis on peut pas faire attendre 1000 personnes en plein soleil longtemps.
Et tu vas faire comment pour les cadrer rapidement, qu'ils prennent vite place, qu'ils écoutent, qu'ils soient attentifs, qu'ils se mettent en place?
Et ben, on a fait des jolis plans, l'idée c'est qu'on les fait attendre tous à l'ombre. Et que dès qu'on dit go, on va mettre les gens dans les lettres. Enfin, dès que les gens sont arrivés, en fait, on attend que les gens arrivent. Et une fois qu'ils sont là, on les envoie dans les lettres. Et ça va aller vite de les envoyer dans les lettres, parce qu'on a bien réfléchi nos trucs avec des systèmes de rubalise exceptionnels. Et après, ça va rouler.
La rubalise est déjà mise.
Non, on va y aller là.
Oui, on va aller se préparer.
On attend qu'il y ait un peu d'ombre, puis elle n'arrive pas, donc voilà, on va aller se mettre en plein soleil et puis on va prendre 2-3 coups de soleil. Mais voilà, ça va être cool.
Bah ouais, carrément, ouais.
Donc,
ouais.
Voilà, puis
et toi, Thibaut, tu fais quoi maintenant ?
Moi, maintenant, je me suis spécialisé dans la recherche d'emploi.
Excellent.
Voilà.
Tu trouves des choses ?
Je trouve des choses, mais on ne veut pas de moi, alors je continue de chercher.
C'est la recherche fondamentale, un peu.
Ouais, c'est ça. Bah écoute, non, puis je passe du temps dans des assos et des trucs comme ça.
Du genre ?
Toujours de la musique, un fameux groupe, T'inquiète la guinguette.
Mais ils sont pas là sur le festival.
Putain, c'est pas faute d'avoir fait du
c'est vrai.
Movie, mais ça n'a pas marché.
Ça aurait été bien.
Ça aurait été bien, mais.
T'as pas un petit. On peut te trouver là ? On peut te passer un petit peu de T'inquiète la guinguette à la radio ?
Tu peux trouver sur YouTube.
Bon, on passera ça.
Ouais, je peux te trouver ça.
Bon, vous avez des concerts prévus bientôt ?
Ouais, le 23 septembre, mais après c'est en Haute-Savoie, faut venir. Ah, oui. Et on a surtout nos dimanches au four qui arrivent le dernier dimanche d'août, et là c'est super. Donc voilà.
Toujours installé en Haute-Savoie ?
Toujours.
Parce qu'en fait, Thibaut, on s'est pas vu depuis des années, c'est pour ça que je fais un petit peu là.
À l'antenne, on y retrouve.
On était collègues ensemble quand j'étais permanent dans le Rhône.
Donc je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
C'est ça, il y a longtemps, c'était l'époque du rassemblement des boussoles. Je pense qu'on pourrait faire une petite rétrospective RN 2011.
C'est même là que nous nous sommes rencontrés.
Et oui, t'allais commencer ta permanence juste
ça,
après.
J'ai découvert dans un rassemblement comme ça. Donc peut-être il y en a qui commencent aussi et qui, dans 7 ans, seront responsables de cette affaire-là.
Oui. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, t'avais pas signé encore. Et c'est au rassemblement où tu te dis allez, banco, je rentre au MRJC.
Je venais juste de réussir mon entretien d'embauche, exactement. Et j'ai signé mon contrat sur la buvette du Festival des Boussoles, si tu veux tout
ça. Ça c'est un beau souvenir, c'est une belle image.
donc voilà, ouais, c'était. Voilà. Et puis je termine ici, tu vois, je pense.
Ouais.
Donc c'est cool.
Bah oui.
Passe de belles journées.
Bon, on se retrouve au bar plus tard. Toi, tu tiens la buvette à d'autres moments ?
Je tiens la buvette à 21h30.
À Micropolis.
À Micropolis, mais surtout venez me voir à l'Air Picture. Ouais. La photo aérienne à Malcombe à 17h30.
À 17h30, et okay. Ben on y sera.
Voilà. Allez, bon après-midi.
Merci beaucoup.
Merci Thibaut.
Nous repartons.
Alors oui, on va repartir, on retourne dans l'arrivée
du camping.
Alors juste avant, dans le petit enregistrement, on n'avait pas dépassé le check. Enfin, on venait de passer
le premier checkpoint.
Le premier checkpoint.
Ouais, ouais.
Et puis on s'est un peu baladé et on a rencontré des jeunes du camp national. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 300 jeunes qui sont arrivés de Pays de la Loire. Ils étaient dans un petit bled, je ne sais plus comment il s'appelle, à côté d'Angers.
Pas loin.
Apparemment, c'était assez chouette. Et là, on croise des jeunes qui sont en train d'installer les tentes. Voilà, apparemment, ils nous racontent un petit peu leurs histoires et leurs déboires. On écoute ça.
Moi, je viens de pas loin de Nantes, en Pays de la Loire. Et du coup, j'arrive du camp national MRJC à Valenjoux, à l'autre bout de la France. Et là, on est en train d'attendre d'entrer dans le camping du festival pour installer nos affaires.
Vous avez fait le voyage de nuit ?
Oui, on a pris le car hier à 23h et on est arrivé ce matin à 6h30.
Pas trop fatigué ?
Si, un peu, j'ai pas beaucoup dormi, mais je vais essayer de me reposer cette nuit. Donc voilà.
Il y avait de l'ambiance dans le car cette nuit.
Bah, au début, on avait un peu peur parce qu'il y avait les Bretons et les Bretons sont réputés pour être bruyants. En fait. Mais moi, personnellement, j'étais à l'avant du car à partir de 23h30. Il y avait plus
comme ça, là, en mono.
Ouais, il paraît qu'il y a eu des soucis avec les cars. C'était quoi?
Alors, je sais pas trop. Au départ, tous les cars devaient partir hier soir et finalement, il y a eu des cars qui sont partis que dans la nuit à 5h. Je sais pas pourquoi. Je sais juste qu'il y a eu des retards.
Ok. Tu dis?
C'est un problème de la société de bus, je crois. Genre, il y a eu une incompréhension, un truc comme ça, et du coup, ils sont partis en retard. Enfin, ils avaient pas les bons cars de prévu et tout, et du coup, un bon bordel.
Ok, merci.
Dis-moi, je vois que vous avez monté un camp de tentes pointues à côté d'un camp de tentes toutes rondes.
Ouais.
Vous essayez de vous démarquer?
Alors, pas du tout, c'est une question de limitation de budget et de renouvellement de matériel de camping. Voilà, nous, on est sur des canadiennes traditionnelles et authentiques, tandis que les autres ont passé la vague du capitalisme en adoptant les tentes Quechua. Je pense qu'ils ont raison, mais nous, on n'avait pas le choix.
Voilà. Et alors, là, tu disais tu galères parce que toi, tu montes un truc encore plus spécial, c'est une tente 3 points.
Ah bon?
Non, je sais pas, c'est, je baratine, mais je vois que t'as plein de piquets de partout.
Ouais, non, nous, on galère parce qu'en fait, on arrive du camp national, du coup, on avait nos tentes montées jusqu'à hier. Et donc tout notre matériel, sauf qu'on nous a demandé de répartir notre matériel en deux bacs, les trucs dont on aurait besoin et les trucs dont on n'aurait pas besoin. Et devinez où on a mis les maillets? Dans le bac où on n'aurait pas besoin. Donc on n'a pas de maillets. Comme tous nos voisins qui ont fait la même chose. Hyper marrant. Voilà,
voilà. Bon bah on va vous laisser galérer.
Merci.
Bonne continuation. Oui.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Raconte-nous tout. Alors, bonjour.
C'est en direct ou pas?
Non, on n'est pas en
Alors,
direct.
Alors je me tais. Non, je me dire, non, mais en fait, on avait juste chaud, on était en soutif et il y a des gens qui sont pas contents.
Ah,
ils sont pas contents de...
Bah, qu'on soit en soutif parce qu'ils trouvent pas ça correct. Mais donc, on comprend, du coup, on s'est rhabillé. Mais on a chaud, du coup.
Qu'est-ce que tu nous fais un signe, ouais, tu le montres. Qu'est-ce qu'elle nous montre?
Que eux, ils ont le droit de se mettre torse nu alors que nous, on est obligé de porter des t-shirts pour la pudeur parce qu'on a pas le droit de se mettre en soutif parce que ça peut gêner les autres. S'il y a des gens que ça met mal à l'aise et tout, on comprend, juste que bah, nous, ça nous saoule un petit peu parce que bah, on a chaud, quoi. Mais s'il y a des gens que ça met mal à l'aise, en même temps, on est dans un lieu commun avec d'autres gens, donc bah, enfin, même si pour nous, ce serait plus confortable de faire un peu ce qu'on veut, bah, c'est compréhensible qu'on n'ait pas le droit. Je gère vachement bien le discours.
Ouais, tu te débrouilles bien. Vous arrivez du camp national?
Oui.
C'était comment?
Soit c'était cool, il y avait du beau temps, il y avait aussi du moins bon temps, mais sinon ouais c'était cool. Il y avait une bonne ambiance de groupe, il y avait 300 jeunes, on faisait beaucoup d'activités entre nous et aussi tout le monde ensemble et c'était, ouais, c'était cool, c'était vraiment 11 jours vraiment au top. Ouais.
C'était où?
C'était à Valenjoux, c'était dans les... C'est les Pays de la Loire, c'est... je sais plus c'est quelle région, c'est...
Côté d'Angers.
Ouais, c'est à côté d'Angers, c'est pas loin. Et ouais.
Et là, t'as prévu des petites activités, t'as repéré un peu le programme?
Ouais, je voulais faire du foot à la base, mais sauf qu'à cause de la canicule, ça a été annulé. Du coup, bah là, je me suis inscrit pour un truc sur les armes et les énergies nucléaires. Et aussi un Cluedo géant sur la migration et... Ouais, l'égalité, enfin, et aussi l'égalité homme-femme. C'est, y a tout un programme, on s'est inscrit. Comment?
T'as vu les sardines?
Non, j'ai pas vu.
Ok, super, merci.
Sans maillet.
Sans maillet, sans rien, là, le sol est super dur. Et là, on est en train de s'installer parce qu'on veut abriter nos vêtements. Et tout ce qui est à faire, on veut les abriter, mais après, on pense qu'on va dormir à la belle parce que vu la chaleur. On n'a pas mis les toiles intérieures des tentes, on va vraiment pas dormir sous tente, il fait très très chaud.
Et donc William, nous étions au camping, on va laisser le camping un petit peu de côté.
Alors non.
Non.
Tu pensais à quoi?
Bah, moi je pensais que bientôt on allait pouvoir laisser le camping de côté et discuter avec une personne que tu as rencontrée.
Ah bah si, effectivement. Alors nous on joue ici à la radio entre les personnes à l'extérieur, les personnes qui interviennent et puis les petites capsules. Et effectivement là juste devant moi, j'ai un homme, j'ai un grand homme, un homme de grande taille.
Un homme grand,
il se dit comme homme grand. Je lui ouvre le micro, il s'appelle Xavier. Et il est prêtre, mais pas que. Et il va me dire que je me trompe, mais on va en discuter. Il tient le stand de la mission de France. Merci, Xavier. Bonjour.
Bonjour William.
Alors, dis-nous que tu es prête, mais pas que. Ça, on en discutait juste avant, là. Et qu'est-ce qu'être prêtre et en même temps avoir un travail ? C'est déjà, tu peux nous dire quel travail tu
fais ? Déjà, je vais peut-être expliquer que donc, je suis prêtre de la Mission de France. La Mission de France, elle a été fondée dans les années 40 par les évêques de France pour envoyer des prêtres partager la vie des gens là où ils sont. Et donc, où est-ce qu'on rencontre le plus les gens en dehors des familles ? C'est au boulot. Donc, dès le départ, des prêtres sont partis travailler. C'est la grande aventure des prêtres ouvriers, là, qui a commencé dans les années 40-50, qui a vécu des périodes un peu mouvementées, et puis qui a redémarré après le Concile.
Pourquoi dans ces années-là, les prêtres ouvriers, ils arrivent d'où ? Pourquoi il se passe ça dans l'Église pour qu'il y ait
des... Ah oui, pourquoi il se passe ça dans l'Église dans les années 40-50 ? Parce qu'en fait, à l'époque, on parlait de ce qu'on appelait alors la déchristianisation. C'est-à-dire que les chrétiens se rendaient compte que, bien qu'ils continuent d'imaginer que la France était la fille aînée de l'Église, et bien qu'en France, il y avait des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui naissaient pas chrétiens. Et que la mission, quand on en parlait à l'époque, la mission, on imaginait que c'était la mission au large, au fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine, pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui connaissaient pas Jésus-Christ et qui en avaient jamais entendu parler. Et là, on s'est rendu compte que la mission, elle était à vivre aussi en France. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qu'on pouvait rencontrer chez nous qui n'étaient pas chrétiens. Et donc, il y avait à l'origine, une ambition conquérante, un peu prosélyte, comme les mouvements d'action catholique alors. Dieu le veut, c'est chose certaine. France à nouveau sera chrétienne. C'était le premier mot et le premier chant qui a été composé au séminaire de Lisieux, de la Mission de France. Donc, il y avait vraiment cette ambition de conquête. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y avait la guerre à cette époque. Et un certain nombre de prêtres et de séminaristes ont vécu l'expérience de la clandestinité, pour ceux qui sont passés dans la résistance, le service du travail obligatoire pour certains séminaristes, ils sont partis travailler en Allemagne, les camps de prisonniers pour d'autres. Et à ce moment-là, si tu veux, dans une société où l'Église avait encore pignon sur rue et où les clercs étaient des notables, eux, ils ont vécu cette expérience de descendre de leur piédestal sur lequel la société les avait posés pour découvrir une saveur évangélique dans le partage de la vie des gens. C'est-à-dire l'expression qui revenait beaucoup à l'époque, c'était « on est au coude à coude avec les gens ». Donc on vit un compagnonnage avec eux et on n'est pas dans une position de surplomb. On ne les prend pas de haut, on les prend de face et on chemine avec eux.
Ouais. Tu peux juste remonter ton micro.
Ah, pardon, encore. Comme ça.
Tu es grand.
Ouais. Ah oui, pardon. Pardon.
Non, c'est bien.
Je vais me baisser, justement, pour être à hauteur de micro, au moins. Voilà. Et quand ils sont revenus de cette expérience, ils ont voulu continuer et aller rencontrer les gens là où ils étaient, notamment en allant travailler en usine, dans les banlieues, ou en rencontrant les agriculteurs et les paysans dans les campagnes et en faisant la moisson avec eux, par exemple, en contribuant aux travaux agricoles, en allant pointer à l'usine, dans les banlieues des grandes villes, etc. Et donc, il y a un chemin qui s'est construit à ce moment-là pour rejoindre tout le monde, quoi, et entreprendre un dialogue avec des gens qui n'avaient pas la foi. Et à ce moment-là, justement, ça résiste, parce que l'ambition conquérante, on voit que ça ne marche pas. Dans les premiers, avant d'aller travailler en usine, ils allaient en soutane à la sortie des usines pour distribuer des tracts Jésus t'aime façon évangélisation de rue. Et les gars prenaient même pas leurs papiers et se moquaient d'eux. Ils se sont rendus compte, ces gens, pour les comprendre et les aimer, il faut qu'on vive avec eux et il faut qu'on apprenne leur langue. Et donc on va vivre concrètement cette expérience. On disait alors une expérience d'incarnation. C'était relié à la foi chrétienne en Jésus-Christ qui est Dieu fait homme, donc qui s'est incarné, qui a pris chair pour habiter parmi les hommes. Nous, ils ont dit, on va faire comme Jésus, on va sortir des structures de chrétienté pour aller partager la vie des gens là où ils sont, loin des structures de l'Église, mais pour être avec eux, pour vivre une présence à leur côté.
Et ça, c'était dans les années 50.
Ouais.
Comment le... Je ne sais pas si c'est un mouvement au sein des prêtres, peut-être, ou de l'Église. je pense qu'il a évolué et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a un retour en arrière. Alors je ne sais pas combien vous êtes, combien vous avez été.
Bah attends, déjà à l'époque, c'était pas un mouvement, c'était pas une lame de fond, hein, c'était pas tout le clergé qui était qui a adhéré à ce projet et à la recomposition de ce projet missionnaire. Hein. Faut pas non plus croire que tous les prêtres de France. En 1954, il y avait 90 prêtres ouvriers en France. C'était pas grand-chose par rapport aux quelques dizaines de milliers qui occupaient le territoire. C'était rien du tout. Et aujourd'hui encore, à la Mission de France, on est une grosse centaine de prêtres, dont beaucoup ont plus de 65 ans. C'est sûr qu'on n'est pas, on représente pas la majorité. Et donc, ta question, c'était, William, un retour en arrière, c'est ça ?
Mais oui, dans l'Église, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir les prêtres ouvriers. La doctrine sociale de l'Église, Vatican II,
qui est toujours d'actualité,
mais elle est comme et tout est toujours d'actualité, on peut le dire, ça fait partie de l'Église, mais il n'empêche qu'il y a aussi bien, j'ai l'impression au niveau de l'Église, une sorte de cristallisation, ou en tout cas de retour sur les bases, parce que besoin de se retrouver sur des valeurs, d'un côté et de l'autre, une société aussi qui reconnaît peu ou pas les prêtres, ou en tout cas il y a beaucoup de clichés, d'idées reçues, de préconçus, et les prêtres doivent tous être, quand on voit un prêtre, il doit rentrer dans un moule, et un prêtre est un prêtre, il est à l'église, il s'occupe de sa paroisse, il est plutôt moralisateur, et puis voilà.
Bon, ça, ça existe certainement. Ça existe certainement, mais c'est pas que. Pas que ça. Et je sais pas, moi, je suis pas trop partisan de me morfondre sur un visage du clergé un peu réactionnaire ou conservateur. Moi, ce qui m'importe, c'est de vivre ce que nous avons à vivre selon nos charismes et nos vocations différentes. Moi, je crois que ce qu'on porte à la Mission de France, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu et que j'ai envie de vivre, et j'ai donné ma vie pour ça, donc ça me semble valoir la peine. Et moi, ça m'intéresse de faire vivre cette intuition missionnaire particulière dans le paysage du clergé diversifié. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de tisser des familiarités avec des mondes qui, justement, entre des mondes qui s'ignorent, avec parfois d'un côté un monde qui a les représentations un peu caricaturales de l'Église que tu as dites, et qui découvre donc une autre manière d'être chrétien ou d'être prêtre, en fidélité avec ce que l'Église propose, mais avec une part d'originalité qui bouscule un petit peu les représentations qu'on peut se faire du prêtre quand on y regarde d'un peu loin, quoi.
D'accord.
Je ne sais pas si je réponds à ta question.
Si, tu réponds à la question avec tes mots aussi. Tu nous as pas dit ce que tu faisais, toi.
Ah, pardon. Oui, je suis donc prêtre et j'enseigne l'histoire géo en collège, en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis depuis un bon paquet d'années. Quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai été dans ma lettre de mission, c'était marqué qu'on m'envoyait travailler dans les établissements scolaires où les enfants sont chahutés par la vie. Et moi, ça m'habite toujours, ce renversement du regard sur les élèves. Pas des élèves chahuteurs, mais des élèves qui sont d'abord chahutés par la vie. Et c'est vrai que dans les collèges du 93 où je suis passé depuis une quinzaine d'années, on en rencontre beaucoup, des gamins chahutés par la vie. Et c'est important d'être là et d'essayer de travailler avec d'autres pour ça, quoi. Voilà.
Donc c'est un collège public ?
Oui, c'est laïque. Un collège public, oui. Ouais.
Et comment toi, tu arrives à les accompagner ? Enfin, tu peux dire que tu es prête peut-être ? Je sais pas, non, pas forcément avec non. Les élèves.
Avec les élèves, déjà, c'est difficile parce que je les vois 3 heures par semaine, donc je suis pas là pour raconter ma vie. On est là pour bosser quand même. Ouais. Et puis, c'est plus facile avec les collègues parce que c'est des adultes. De toute façon, comme prof, j'ai un devoir de réserve. J'ai pas à mettre sur la place publique, enfin, en tout cas, sur mon estrade ou que le fait que je suis prêtre, ça c'est un principe de base. C'est marrant parce qu'il y a un texte de loi qui dit qu'on peut travailler comme prêtre dans le secondaire, comme ministre d'un culte, à condition de respecter ce devoir de réserve, et c'est un texte qui nous met sur un pied d'égalité avec les délégués syndicaux et les élus politiques qui font pas de prosélytisme pour leur boutique quand ils sont devant leurs élèves en classe. C'est la même chose. Si on est imam, si on est prêtre, si on est délégué syndical ou élu politique, on fait son boulot de prof, c'est ça qui prime. Et alors évidemment, il y a des choses qui passent par les convictions qui nous habitent et qui ne sont pas verbalisées ou martelées comme des convictions militantes. Mais dans notre approche, tu vois, moi ce que je te disais tout à l'heure sur le fait qu'on m'invite à accompagner des gamins chahutés par la vie, bah, forcément que ça m'ouvre à une attention particulière à ces enfants qui habitent ma vie personnelle et ma vie de prêtre. C'est pour ça que je suis pas... On en parlait tout à l'heure en off, avant que je prenne le micro, mais je peux pas dire que je suis prêtre à mi-temps et prof l'autre moitié du temps. Si le prof, c'est mon boulot, prêtre, c'est ma vie. Donc même quand je suis au boulot, j'essaye de trouver comment mon ministère est de prêtre, comment le ministère de prêtre que je porte, il a sa raison d'être et sa manière de vivre dans ce milieu-là, quoi.
Ok. Moi, je me pose quand même la question de comment... Enfin, si, je, vis-à-vis de toi, je... Enfin, je vis-à-vis... Je me dis, on peut l'incarner, on peut appliquer ses valeurs à son quotidien. Mmh. Mais être prêtre, c'est aussi... comment dire ? C'est aussi porter... c'est être un représentant de la foi et de l'Église... ouais. Dans une communauté.
Ouais. Tu as tout à fait raison.
Et je me demande comment, encore, en tant que prêtre engagé dans la société,
eh ben justement,
ça fait le lien.
Tu touches
dans les deux sens.
À plein de choses très importantes. Déjà dans la première partie, sur les valeurs que tu disais. Tu vois, on peut porter ces valeurs sans être prêtre et même sans être chrétien. Et ça, c'est une vraie richesse de découvrir dans le boulot qu'il y a des communautés de convictions avec des collègues, je veux dire, dans notre manière de porter les problèmes qu'on a, que des élèves rencontrent et pour qui on essaye de trouver des solutions. Pas besoin d'une carte ou d'un certificat de baptême pour vivre ça. Donc ça, c'est très important. Après, ce que tu dis, c'est vrai, quand on est prêtre, on est un homme d'église. Donc on est représentant d'une communauté. Ça, tu as raison. Et justement, c'est important que l'Église, elle, envoie des prêtres, parce que ce n'est pas moi qui ai décidé de partir dans ce milieu-là. J'ai été envoyé. J'ai été envoyé. Et les copains qui sont au boulot comme cuisinier, comme maçon, comme facteur, comme enseignant-chercheur à la fac, comme médecin en PMI, ils sont envoyés dans ces milieux-là, en mission.
Par qui ?
Par l'évêque de la Mission de France. Okay. Par l'évêque de la Mission de France, en accord avec les évêques dans les diocèses dans lesquels on travaille. On n'est pas des commandos parachutistes et nos lettres de mission, c'est un projet diocésain et de la Mission de France en même temps, et nos lettres de mission sont signées par les deux évêques. Mais c'est quand même l'évêque de la Mission de France qui nous envoie, au nom de l'Église, pour être présent dans ce milieu-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on consacre, et le mot est fort, on consacre du temps à travailler avec d'autres, en dehors des frontières de l'Église. Ça veut dire que des prêtres sont détachés des fonctions habituelles d'un prêtre dans la communauté rassemblée pour être présent au cœur du monde, dans une activité professionnelle, avec des gens. Et ça, ça porte en partie le témoignage d'une communauté chrétienne, catholique, qui dit qu'elle n'est pas faite pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas faite seulement pour la communauté des chrétiens rassemblés, mais que la parole qu'elle a reçue, et dans laquelle elle croit et elle a mis sa confiance, elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. Je ne dis pas ça pour dire on va pour faire du prosélytisme, mais on dit qu'on est en recherche de ce que les autres ont à nous dire de la part de Dieu dans le monde dans lequel on vit. Et que la communauté chrétienne et l'Église catholique n'est pas autosuffisante. Et qu'on a besoin d'être attentif aux signes de l'Esprit dans le monde tel qu'il est. Parce que Dieu nous dit des choses aussi à travers les autres. C'est ce qu'on croit fondamentalement.
Et toi, t'as une paroisse ?
Non, moi j'ai été en paroisse à un moment, au début de mes premières années de prêtre. J'étais à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue parisienne. Je travaillais comme prof et puis je m'occupais un peu de la pastorale des jeunes. Maintenant, je continue mon travail, mais je n'ai plus de paroisse parce que je m'occupe de la formation des séminaristes. C'est-à-dire des gars qui sont en recherche, qui travaillent la question de devenir prêtre de la Mission de France.
Et il a quoi de... Quelle est la spécificité de votre séminaire par rapport à d'autres ? Comment ça se passe ? Comment vous les formez ?
Ça se passe bien.
Ouais. Et pour leur dire, ils ont fait le choix de ce séminaire-là parce qu'ils sont attirés par ce choix de prêtrise. Et comment vous les, enfin eux, ils viennent tous avec leur bagage professionnel aussi.
Ah ouais, c'est ça.
Et en plus, ils sont formés à devenir prêtres. Mais alors, est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à un autre
Alors la première spécificité, c'est que pendant les deux premières années du séminaire, ils ne quittent pas leur travail. C'est-à-dire qu'ils commencent la formation en restant les pieds au boulot et dans le lieu où ils vivent. C'est-à-dire qu'on ne va pas les faire déménager dans un grand internat pour vivre en communauté avec d'autres. Ils restent dans leur lieu de vie et dans leur lieu de travail. Ils ont quand même une vie d'équipe, c'est-à-dire ceux qui en sont au même point là, dans leurs deux premières années de boulot, dans leurs deux premières années de séminaire au boulot. Ils ont une vie d'équipe toutes les trois semaines, accompagnés par un prêtre de la Mission de France, où ils relisent un petit peu l'étape où ils en sont, où ils discernent ensemble, où ils s'interpellent, où ils disent les questions que ça leur pose d'être dans ce milieu professionnel par rapport à la question de la vocation à être prêtre. Ça dure pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils arrêtent leur activité professionnelle pour commencer le temps de la formation à temps plein. Et là, à ce moment-là, ils rejoignent une petite maison à Ivry-sur-Seine, dans la banlieue de Paris. Ils vont suivre des cours à l'Institut catholique ou au Centre Sèvres chez les Jésuites. Ça, c'est pour la formation intellectuelle. Mais sinon, ils ont un enracinement local. Ils ont à la fois une insertion pastorale pour connaître un peu la vie de la communauté chrétienne locale et ce que c'est que d'y être impliqué, et une insertion sociale pour s'insérer dans la vie de la ville, pas forcément seulement dans les structures paroissiales et pastorales. Ça, c'est une formation qui dure 4 ans, où ils vivent dans cette petite maison en autonomie, c'est-à-dire qu'ils doivent se prendre en charge pour les courses, pour le ménage, pour la cuisine, pour la vie quotidienne, quoi. C'est pas un internat, quoi, où ils ont qu'à se mettre les pieds sous la table, et ils doivent vraiment contribuer et construire leur vie communautaire pendant la formation. Et tout au long de cette formation, le fil rouge, c'est la vie d'équipe. C'est-à-dire on chemine avec d'autres, on fait route avec d'autres et on écoute leurs interpellations, on en pose nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à la Mission de France, puisque après, on est envoyé en équipe. C'est-à-dire s'ils deviennent prêtres de la Mission de France, ils sont envoyés dans une équipe avec d'autres.
D'accord.
Voilà.
Ok. Merci Xavier.
Ben de rien, William. Tu voulais pas passer un petit...
Si, on va le passer. Tu m'as donné, tu m'as transmis un petit film qui s'appelle Des prêtres là où on les attend pas.
Disponible sur YouTube. Pardon,
ça, c'est c'est un petit film qui promotionnel, fait par vous en tout cas, par la Mission de France, et qui parle un petit peu de ça, qu'on peut trouver des prêtres.
Voilà, ça fait parler les copains prêtres de la Mission de France sur leur vie un petit peu de manière... condensé.
Et vous avez eu des retours d'autres prêtres là-dessus ?
Ouais, c'est assez bien reçu, c'est assez bien reçu dans l'ensemble, parce que ça, c'est de prêtres ou de séminaristes ou de gens même qui viennent taper à la porte de la Mission de France parce qu'ils ont vu le clip et qui trouvent ça intéressant comme manière de vivre en église aujourd'hui, quoi, dans le monde tel qu'il est.
Et ça les questionne aussi, des fois. Est-ce qu'on peut devenir prêtre de la Mission de France quand on a été prêtre d'une prêtre diocésain?
Alors, il y a différents cas de figure. Oui, ça existe, des prêtres ou des religieux qui ont été dans des congrégations et qui nous rejoignent. Il y a toujours cette possibilité, comme ça peut se passer dans l'autre sens, des prêtres de la Mission de France qui rejoignent des communautés religieuses ou autre chose. Enfin, je veux dire, c'est pas cloisonné, ça peut. Mais il y a aussi dans les équipes de la Mission de France des prêtres diocésains qui, bien que n'étant pas incardinés à la Mission de France, participent à la recherche de la Mission de France et rejoignent des équipes avec d'autres où il y a ce souci de porter la question de Dieu dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Et ça, nos équipes, elles accueillent large. C'est pas, faut pas avoir le label qualité Mission de France, si tant est qu'il y en ait un, pour participer à cette réflexion. Voilà.
Ok. Bon, on écoute ça. Bon. Et dernière chose, est-ce que tu connais Lulu?
Lulu qui marche avec des ânes.
Juste après, on écoutera un petit enregistrement qu'on a fait hier, parce qu'il est arrivé avec une dizaine de jeunes et 2 ânes, et on les a trouvés un peu par hasard. Ils arrivaient sur le camping.
Les ânes ou les jeunes?
Les deux.
Les deux.
Les ânes avaient une petite charrette avec eux, avec plein de matos,
Et Lulu était là pour causer un peu. Lulu qui est prêtre.
Ouais, et qui est prêtre dans le diocèse là. Enfin dans le diocèse, non, dans le diocèse de Saint-Claude, je crois, juste à côté.
À côté, ouais.
C'est un franc-comtois en tout cas.
Ouais, ouais. Merci Xavier.
Merci William.
Bonne suite et on te retrouve, on peut te retrouver au stand de
sur le stand France. Ou demain dans des ateliers à la maison diocésaine. Merci.
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 Texte à écriture, ce que la rivière charrie, coule les mots et les ratures, l'y creuser de mon esprit.
Je m'appelle Jean-Christophe, je suis maraîcher depuis 5 ans. Puis bah, ma passion, bah, c'est de toucher la terre, voilà, toucher la terre, toucher l'humus, toucher l'humain.
Qui a été avalé par le turbo et qui... Allez.
Je m'appelle Hervé. Quand j'étais petit, je passais mon temps à réparer mon vélo qui ne voulait jamais marcher. Et maintenant que je suis grand, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à réparer tous les vélos du quartier.
Ah ben, moi, je fais rien.
Hein. Ah ben, voilà, nous devons réussir un magnifique sauvetage. Nous devons sauver Jolivier.
J'habite à Nîmes. Je travaille dans un entrepôt de la grande distribution. Ma passion, c'est la musique. J'aime jouer avec d'autres, chanter avec d'autres ou pour d'autres. Ce qui est important, c'est que ça sonne juste pour que ça touche chacun au cœur. Ce qui se dit là, c'est quelque chose de la rencontre, de l'authenticité de la rencontre, et peut-être même de la communion.
Je m'appelle Patrick. Voilà, je suis cuisinier. J'ai été envoyé par mon évêque, le jour de l'ordination, dans les stations olympiques de Savoie. Et je suis devenu cuisinier cette même année. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer un univers, et surtout des personnes que je n'aurais certainement jamais rencontré autrement.
Un exemple de dialogue avec un étudiant me dit « Mais monsieur, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur vous ?» Alors moi j'étais un petit peu étonné, je lui dis « Ben, je sais pas très bien ce qu'on dit sur moi, mais c'est peut-être vrai. Et qu'est-ce qu'on dit sur moi ?» Il me dit « Ben, on dit que vous êtes celui qui rassemble la communauté. » Alors je lui dis « Ben, oui, un petit peu, je suis prêtre. Je suis prêtre catholique. Catholique en plus, j'ai été surpris. » Et c'est pour ça qu'il a découvert que j'étais prêtre et que, je pense, cette année, beaucoup d'étudiants l'ont su rapidement parce que chaque fois qu'ils me croisaient, eh ben, ils m'appelaient mon père dans les couloirs. Voilà. Voilà un petit exemple.
Vieux visage, tout ridé, mettre au rebut toute parure, même quand l'histoire s'est froissée. Écrire mes idées en toc, c'est là ce qui ne va pas.
La journée, on a bossé les uns côté des autres. Le soir, on se lâche. Et il m'est arrivé de faire ce que je pourrais appeler pratiquement des confessions en buvant une bière. Et même parfois, en allant en boîte, pour être honnête, je ne suis jamais autant sorti en boîte de nuit que depuis que je suis prêtre.
Bah, mon but, c'est de réinsérer des personnes en situation fragile, en situation précaire, par l'activité économique. Qui est le maraîchage bio.
Cher Sébastien, tu me demandes pourquoi les prêtres de la mission de France partagent la vie de travail des hommes de notre temps. Pour deux raisons, il me semble. La première est qu'ils se posent la question du sens de leur vie et que la foi au Christ peut leur ouvrir un chemin. Et la seconde, c'est qu'en partageant leur travail, nous pouvons communier à leurs questions, leurs espoirs, leurs souffrances et leurs joies.
Nous ne te promettons pas de réussir dans la vie, mais nous te promettons de réussir ta vie en lui donnant du sens.
On ne te promet pas une jolie maison avec un petit bateau, une petite femme et de jolis enfants, mais on te promet de pouvoir habiter toutes les cités du monde avec tous les enfants que la Terre peut porter.
On ne te promet pas des décisions toujours faciles, mais on te promet une vie de recherche en vérité.
On ne te promet pas une vie tranquille, mais une vie pleine d'aventures, d'imprévus.
Nous ne te promettons pas du bling-bling, mais nous te promettons des rencontres simples et authentiques.
On ne te promet pas la facilité, mais la vie d'un chantier, la tendresse d'un soignant, la passion d'un chercheur.
On ne te promet pas des conquêtes amoureuses, mais une joie profonde, cultivée dans l'Évangile.
Toute ma vie avec eux, chrétien ou non, j'ai dialogué, et de tous, j'ai beaucoup reçu. Cela a été la passion de ma vie. Et toi, quelle sera ta passion ?
Bonjour, tu viens d'où? Vous venez d'où vous?
PDL, Bretagne.
On est la radio du festival, ouais. Radio Doux. Vous pouvez nous écouter sur le 103.3 MHz.
C'est lequel
103.3.
C'est 103.3.
Allez, on est de retour au studio. Encore merci Xavier de la Mission de France d'avoir pris un temps avec nous le micro en cet après-midi. Vous êtes bien sur le 103.3. Vous pouvez toujours nous appeler pour envoyer vos messages au 06 65 74 11 81. Alors, dehors, moi je suis dans le studio, là, à côté de la buvette, et dehors, Jimmy. Jimmy, est-ce que tu
oui.
M'entends?
Et oui, est-ce que tu me reçois?
Oui, je te reçois, Jimmy. Super. Alors, tu es dehors dans le village, en plein soleil.
Oui,
c'est super, vous cramez bien, là, vous avez l'air bien. Avec qui tu es?
Eh ben, écoute, je me baladais sur le village et je suis tombé sur un stand composé de deux tables et d'un magnifique kakémono bleu et blanc. Et sur deux jeunes hommes que je vais laisser se présenter. Dis-moi, mais qui es-tu?
Bonjour, je m'appelle Achille, j'ai 21 ans et du coup je travaille pour les boycotts.
Et donc ton camarade c'est?
Ton camarade c'est Maxime, j'ai 23 ans, je bosse aussi pour les boycotts.
Et alors en deux mots, iBoycott, c'est quoi?
iBoycott, c'est une plateforme participative où chaque citoyen peut s'impliquer à son échelle en menant des campagnes de boycott contre les grandes multinationales.
Précis. Eh bien écoute, moi j'ai envie de vous poser une petite question avant qu'on retourne en plateau pour parler de tout ça. Vous êtes arrivé quand? Vous êtes installé comment? Vous logez où? Vous avez vu des concerts? Enfin, c'est quoi l'ambiance pour vous?
Et bah pour nous, tout se passe bien. On est arrivé hier, tranquillement, par la voie terrestre. Non, la voie ferrailleure. Et nous sommes installés tranquillement. On profite un peu de la chaleur de Besançon, de la fraîcheur. Et puis tout va bien pour nous. On a fait un peu la fête hier soir, au final. Hein, on n'est pas à plaindre. On passe un très bon moment pour le moment.
Et alors, quel food truck vous avez plébiscité pour manger jusqu'à présent?
Moi, j'ai pris la galette complète. Voilà.
Et moi, j'ai opté pour le burritos.
Très bien. Moi, j'ai opté ce midi pour la saucisse frite, qui est pas mal aussi, mais c'est juste parce qu'il y avait moins la queue.
Moi, j'ai mangé la tartine. La tartine avec la petite salade. Avec la ratatouille.
Ah, c'était voilà. Frais.
Hein?
C'était frais.
Ouais, c'était bien, okay. Avec cette chaleur. Je lance une petite musique.
Ouais, le temps qu'on
puis vous nous retrouvez.
Parcourt les 5 mètres du câble qui nous sépare du studio.
Allez, je vous propose Nasty Sex. C'est parti.
C'est vrai que ça change. Alors, ça s'appelle comment?
Peut-être que nous on va se faire un micro pour deux et vous on va vous laisser chacun un micro. De la buvette, et heureusement la buvette vend des glaces, donc je pense que
que dans un temps on va se ruer. Donc vous parliez de I boycott. Donc c'est I comme je boycott. Mais alors qu'est-ce qu'on boycotte avec I boycott? Et I boycott c'est quoi?
Bah, ce qui est intéressant en fait, c'est que t'as pas particulièrement quelque chose que tu vas boycotter en fait. C'est quelque chose qui est transversal, c'est-à-dire que on va tant pouvoir boycotter, enfin chaque citoyen va tant pouvoir boycotter que ce soit une entreprise qui respecte pas des conditions de travail, que ce soit une entreprise qui produit des déchets. Et du coup, c'est transversal et du coup, ça permet d'impliquer chaque citoyen bah, finalement sur l'enjeu que lui il lui tient à cœur et il peut mener sa campagne de boycott.
Et donc, ça consiste en une application?
Ça consiste pas encore en une application, ça consistera en une application le 22 septembre, date de sortie phare de l'application iBoycott, la révolution, on l'appelle notre révolution 2.0. C'est-à-dire que pour l'instant, on est présent juste sur une plateforme qui est sur www.iboycott.org et demain, une application qui vous permettra de faire du scan de produits. Du scan de produits, c'est-à-dire, je te vois venir, tu vas me demander ce que c'est, je vais t'expliquer, il n'y a pas de souci. Le scan de produits, c'était un peu comme le fait... aujourd'hui Yuka, c'est-à-dire pouvoir scanner un code barre et avoir son apport, sa valeur nutritionnelle, etc., s'il y a des additifs, des sucres.
Donc ça, c'est quand tu fais tes courses au magasin?
C'est ça, quand tu fais tes courses au magasin ou quand tu rentres chez toi, tu peux scanner ton produit et du coup avoir les apports nutritionnels ou les additifs, etc., tout ce qui est bien et tout ce qui est moins bon dans ton produit. Et en gros, ça te sort un Nutri-Score d'une base de données libre qui s'appelle Open Food Fact, qui est open source, là où en fait les gens décryptent les étiquettes et rentrent les informations
eux-mêmes.
Et après du coup ça fait le travail. Et en plus de ça, on aura le côté du code barre éthique. C'est-à-dire qu'en gros, tu pourras savoir en scannant directement ton produit quelle marque appartient à quel groupe et s'il y a une campagne de boycott en cours contre ce groupe-là.
Donc en fait, c'est plus pour orienter le consommateur au moment de l'achat ou pour l'instant, donc là où il y a cette appli de scan. Mais pour l'instant, c'est uniquement une base de données sur un site internet.
Disons qu'à l'heure d'aujourd'hui, il existe déjà cette base de données. Et en fait, Yuka avait récupéré cette base de données sans jamais vraiment la mentionner. Il l'avait mentionné en tout petit à chaque fois en dessous. Et donc, du coup, ils ont fait une appli bien ergonomique, etc. À chaque fois, ils ont fait beaucoup de plateaux télé, beaucoup de radio, beaucoup d'interventions. Ils n'ont pas mentionné une seule fois Open Food Fact. Donc ça, c'est la partie qui existe déjà qu'on va reprendre. Et nous, on rajoute du coup le code barre de l'éthique, entre guillemets, avec notre base de données qu'on va créer. On est en train de créer un arbre absolument énorme de toutes les marques qui appartiennent au groupe, etc. Donc voilà.
Donc vous avez votre corps de métier, c'est plutôt l'informatique?
Je dis nous. Je dis nous, c'est pas vraiment nous. Hein. C'est quand je dis nous, je parle
au nom
d'iBoycott.
Alors qui est derrière iBoycott?
C'est deux frères d'origine turque et ils ont créé iBoycott. Ça fait 2 ans et demi. C'est ça, ça fait 2 ans et demi qu'ils l'ont créé. Et ils voulaient en fait trouver un moyen, une réponse aux différents enjeux d'aujourd'hui et pouvoir impliquer chaque citoyen à chaque fois dans l'enjeu et essayer de sensibiliser d'ailleurs après les différents autres citoyens qui n'en ont pas encore lancé.
Et donc c'est assez gros pour, par exemple, vous êtes bénévole, salarié, comment vous avez eu connaissance, ils sont venus vous chercher, qu'est-ce que vous faites là?
Du coup, moi personnellement, je suis en stage, peut-être après en service civique. Et comment j'ai connu iBoycott, ils sont venus intervenir dans un cours que j'avais. Et à partir de là, je me suis rapproché d'eux, j'ai beaucoup aimé, on s'est très bien entendu. Et moi, j'aime beaucoup le projet personnellement.
Et moi, je suis en service civique depuis quelques mois maintenant. Et disons que vu qu'on se veut totalement indépendant, parce que logiquement ça la foutrait un peu mal de dire on boycotte Total mais on a comme soutien Total, donc c'est un peu l'idée de, vu qu'on se veut totalement indépendant, on ne survit que par les dons privés et les formations qu'on donne un petit peu. Il y a des formations service civique, on a développé un serious game qu'on va faire dans les écoles pour sensibiliser un petit peu, pas dès le plus jeune âge, je dirais que ça se joue à partir de 15-16 ans, qui est un jeu de rôle. Bon, voilà, on a quelques sources de revenus un petit peu comme ça, mais c'est pas non plus donc le service civique, nous, vu qu'on est payé par l'État en partie, c'est une bonne solution pour nous pour avoir des personnes qui peuvent plancher une bonne partie du temps pour pouvoir développer l'association. Et voilà, du coup je suis en service civique depuis quelques mois et j'ai connu iBoycott à Lyon de bouche à oreille.
Parce que les deux frères, ils viennent de Lyon, c'est ça?
Les deux frères viennent de Lyon, ouais.
Non, j'ai un souvenir, quand vous en parlez, j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré il y a 2 ans justement,
je ne sais pas si c'était au MRJC ou ailleurs, et il commençait juste à faire, je crois qu'il a commencé avec un crowdfunding, non? Il n'y a pas eu un...
Ouais, si, il y a eu une levée de fonds. Ouais.
Il y a eu un Kiss Kiss Bang Bang.
Mmh. Ouais, c'est ça. Et il commençait juste à faire une petite application, en tout cas le fonctionnement que...
Il s'appelle Bulent et l'event Akar. Je sais pas si ça te dit quelque chose.
Il n'y a pas un super-héros sur le...
C'est le super consommateur.
Et je n'arrive pas à me souvenir où je l'ai rencontré. On a discuté tous les deux, il me présentait ce projet-là. Et je me disais, mais honnêtement, je pensais que ça pouvait pas marcher. Parce que je me disais, mais est-ce que c'est raccord de pouvoir boycotter en appuyant sur une touche sur son smartphone? Est-ce que ça engage, en fait? Est-ce que derrière, on conscientise ce qu'on fait? Je ne sais pas si vous, c'est votre rôle aussi de se dire, qu'est-ce que c'est le smartphone est un outil, et en même temps, comment faire de l'éducation autour de ça, quoi.
T'as un peu l'idée déjà de... Je pense que ce qui change entre le boycott, ce qu'on fait et la pétition, le fait de s'engager à boycotter, c'est-à-dire que tu vas plus loin. C'est que tu prends... Certes, ce n'est qu'un clic sur Internet, mais c'est... Moi, je l'entends comme je clique, donc je prends l'engagement de ne plus consommer cette marque-là tant qu'elle n'aura pas régulé cette dérive. Et en fait, du coup, c'est là que ça marche, et c'est là qu'on a quelques victoires au niveau des entreprises. Et ce qui change un petit peu avec la pétition, c'est que les gens se disent, en fait, t'attaques deux nerfs de l'entreprise. Un, le nerf économique, qui est du coup plus ou moins important en fonction de la taille de l'entreprise. Et le second nerf, qui est pour moi le plus important, qui est le nerf de l'image. Et dès que t'as une mauvaise pub, en fait, pour une entreprise, bah maintenant, de plus en plus, à l'ère de l'information, là où tout circule à une vitesse folle, bah du coup, c'est là que ça les impacte vraiment. Donc ouais, non, on a quelques... Je pense que ça marche quand même, et on a maintenant quelques retours avec quelques victoires, donc c'est cool, on est en passe de...
Mais alors justement, à l'heure où la responsabilité sociale des entreprises devient aussi un problème marketing, iBoycott contacte les entreprises pour leur dire « Eh, toc toc toc, on est à je sais pas combien de clics boycott sur notre appli » ou c'est à eux de s'en rendre compte? Est-ce qu'il y a un moment, il y a un petit côté un peu... plaidoyer?
En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est vraiment quand c'est un processus, en fait, les campagnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 100 000 personnes sur notre plateforme.
Plus de 100 000 personnes.
Plus de 100 000 personnes sur notre plateforme. Et,
on a passé la barre la semaine dernière.
Youhou! Et du coup, c'est un processus. C'est-à-dire que si toi, demain, t'as un enjeu qui te tient à cœur, tu vas sur la plateforme, tu commences à rédiger ta campagne, tu la publies, et en fait, ça va pas tout de suite être publié. Ça va d'abord passer par l'avis de la communauté, où en fait, chaque personne a le droit de dire, ça, je trouve ça intéressant, mais je pense que t'aurais peut-être mettre plus de sources ou faire ça comme ça, etc. Et toi, vu que ça te tient à cœur et que tu as envie que ta campagne marche, tu vas prendre en compte les avis et tu vas commencer à modifier ta campagne. Toujours pour le mieux. Et à partir de ce moment-là, tu as un cap de période de boycottant qui est atteint. Et à ce moment-là, il y a une notification, effectivement, un message qui est envoyé à l'entreprise pour la mettre pour lui notifier simplement que il y a une campagne de boycott en cours et que t'as tant de personnes qui n'achèteraient plus leurs produits. Et à partir de ce moment-là, je trouve ça vraiment intéressant. L'entreprise a un droit de réponse, certains diront heureusement. Et à partir du moment où le droit de réponse est arrivé, le communiqué est soumis au vote des boycottants. C'est-à-dire que les boycottants vont pouvoir, s'ils le veulent, lever le boycott à travers un vote ou continuer le boycott. Si on continue le boycott, il y a un autre message qui est envoyé à l'entreprise, comme quoi leur engagement et leur communiqué n'atteignaient pas finalement l'envie des citoyens et des boycottants. Et à partir de ce moment-là, l'entreprise a le droit de faire un deuxième droit de réponse, etc. Ça vote. Et voilà, du coup, c'est vraiment, comme je disais au début, c'est un processus qui est quand même très intéressant.
Et là, vous avez un exemple d'une entreprise avec qui vous êtes actuellement en échange
Notamment une victoire que je peux citer, c'est Petit Navire, où on a échangé. Tu sais, l'enjeu, c'était la pêche au DCP, donc recréer un écosystème dans l'eau pour attirer le maximum de poissons. Sauf que, évidemment, eux voulaient le thon, sauf que, évidemment, ils récoltaient aussi des requins, des dauphins, etc. Et du coup, une notification a été envoyée comme quoi il y avait un boycott. Eux, il faut savoir aussi qu'ils étaient en contact avec Greenpeace. Et à partir de ce moment-là, Petit Navire a répondu deux fois. La deuxième fois, ils avaient pris des engagements forts avec Greenpeace d'ici 2020 pour réduire leur pêche, le DCP, etc. Du coup, voilà, c'est vraiment un échange. Et encore une fois, c'est pas des campagnes vindicatives. C'est vraiment quelque chose qui est pour essayer de remodeler, en fait. Voilà.
Et le boycott a été levé ?
Avec Petit Navire.
Ouais. Du coup, ouais, ça s'est fait en deux temps. Tu as une première réponse, comme bien souvent, en fait. On a une première réponse de l'entreprise qui va être on vous répond de manière très globale et en fait, on noie le poisson. On noie le poisson. Et donc, du coup, y a beaucoup de personnes. Du coup, ça qui est intéressant, c'est qu'en politique, tu as souvent l'impression qu'on te raconte n'importe quoi quand tu regardes la télé. Mais en fait, tu es derrière ton écran. On te donne le choix de pouvoir voter une fois tous les 5 ans. Donc, tu te dis, je ferai mieux la prochaine fois. Et d'ici là, on encaisse, tu vois. Et là, en fait, du coup, ils ont répondu une première fois. Et donc, tout le monde a vu que c'était du vent, très clairement. Et donc, ils ont dit, la grande majorité a dit, on continue de boycotter. Et en fait, ils ont revu leurs engagements à la hausse. Pendant ce temps-là, nous, la campagne a fait du bruit. Parce que, du coup, la campagne a fait du bruit. On a eu beaucoup de boycottants qu'on rejoint en plus. On a eu le soutien de Greenpeace. Donc, en fait, voilà, ils ont revu leurs exigences sous la pression. Et ils ont fini par dire, d'ici 2020, on réduit de 2/3 notre pêche en DCP. Et on promouvoit les techniques de pêche alternatives. Et Greenpeace est toujours au-dessus d'eux, en train de regarder. Si jamais tout se passe bien, on leur fait confiance pour ça, les actions sur le terrain, etc. On sait qu'ils sont au courant, quoi.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est ce côté aller-retour. Je clique, mais j'ai un retour aussi sur mon clic de l'entreprise. Ça marche, ça marche pas. Et ils peuvent en discuter entre les boycotteurs. Est-ce qu'il y a une sorte de forum ou comment
T'as un onglet en fait d'alternative où en fait, typiquement. Typiquement, il y a une campagne contre McDo. Les gens et les boycottants sont libres de proposer des alternatives à McDo ou sur une autre entreprise, etc. Et du coup, ça permet finalement de pas être seulement de on arrête d'acheter, mais plus de on va concevoir finalement le système de consommation demain. Au lieu de ça, on va acheter ça, etc. Et voilà, ça se construit au fur et à mesure.
Mais il y a pas de forum pour qu'ils puissent discuter.
Et dans ces alternatives. Il y a eu des tentatives d'entreprises qui se réclament un peu propre social, propre éco, propre vert. Je sais pas, un Coca Bio qui aurait proposé, l'alternative à Coca, c'est nous. Ou est-ce qu'il y a des mouvements un petit peu autour? Est-ce que ça commence à créer quelque chose sur un peu une bulle d'entreprise, d'entrepreneuriat un peu qui se réclame éco, responsable, etc.
Heureusement non, pour l'instant. En fait, c'est le côté un peu problématique du. Purement démocratique par l'internet, dans le sens là où c'est un clic, une voix. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer une dérive demain, je vais le dire tout bas pour pas que les grosses entreprises entendent, tu vois, mais ça pourrait être un Coca-Cola qui va plébisciter une autre marque de son groupe et qui va demander à toutes ces personnes d'aller cliquer, d'engager des mecs qui vont créer des comptes, etc. Personne le fait. Alors aujourd'hui, il y a un côté très bienveillant encore dans.
Ou des robots. Hein.
Ou des robots, par exemple. Mais je veux dire, il y a un côté encore aujourd'hui très bienveillant qui dit on est toutes les petites graines de résistance et on va quand même essayer d'aller chercher des alternatives qui sont mieux pour nous, mieux pour notre santé, mieux pour notre porte-monnaie souvent, donc montrer qu'il existe des solutions pour tout le monde, pour celui qui a les moyens, celui qui a moins les moyens, mais qu'on a tous envie de s'en sortir en essayant de s'exfiltrer un petit peu du capitalisme. Quoi.
Eh ben, moi je n'ai plus de questions, William.
Juste une sur la suite, un peu comment se projette. Vous êtes arrivé à 100 000 là. Mm-hmm. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelles sont les prochaines campagnes?
Du coup, là on est totalement pris par justement la sortie de l'application le 22 septembre. Du coup, on fait un gros événement à Paris, à Lyon et dans d'autres villes, puisque chaque antenne locale va organiser son propre événement pour la sortie de l'appli. Et à partir de ce moment-là, on va essayer de faire le maximum de bruit. iBoycott a créé une alliance aussi avec des gens qui sont dans les alternatives, que ce soit des youtubeurs, des grosses associations, des ONG. Et on va essayer de ramener tout ce monde-là et essayer de faire avancer la chose et essayer de faire le plus de bruit possible pour l'application, que j'espère vous téléchargerez.
Et du coup, l'objectif, c'est le million, clairement, sans patate. Le million. Et la prochaine campagne qui va être créée, c'est celle que vous allez créer tous les deux, Jimmy et William, parce qu'il y a quelque chose qui vous révolte dans la société, j'en suis sûr et certain. Donc du coup, vous pourrez vous-même, comme toi qui nous écoutes, aller créer ta propre campagne contre toutes ces choses qui te révoltent dans la société.
Bon, on va y réfléchir avec Jimmy, on va essayer de trouver quelque chose. Là. Tout autour de la radio, du prix exorbitant des micros, je sais pas, il faut qu'on voit. Ou des ondes électromagnétiques qu'on envoie. Des radios libres, radios pirates,
yes.
La non-possibilité d'avoir les fréquences qu'on souhaite quand on le souhaite en respectant la fréquence des autres, le CSA qui nous empêche un peu d'émettre quand on le veut. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus.
Ouais. Apparemment, il y a quelque chose à faire.
On va trouver.
Et de l'inspi.
Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et je voudrais juste remercier tous les organisateurs de l'événement, parce que je trouve ça vraiment génial, les gens sont géniaux. Merci à tous les bénévoles et à tous les gens qui ont fait le taf.
Merci à vous pour eux, merci à eux. Bon après-midi.
Bon après-midi à vous.
Salut. Tchuss.